Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant l'évangile de Saint Jean. Nous arrivons à l'étude numéro 5 et nous allons parler de la première chrétienne. Chers amis, la dernière étude nous a permis de découvrir comment Jésus corrige ce qui va mal dans notre monde. Nous allons examiner maintenant la réaction attendue de notre part à ce qu'il a accompli. Cela correspond à l'aspect le plus fondamental d'une relation avec le Christ, c'est-à-dire à savoir la foi. Elle est donc la foi, le canal de réception partout dans la Sainte Bible de la connaissance, du réconfort et des dons que Dieu accorde à travers Christ. Cependant, il y a beaucoup de confusion au sujet de ce que la foi chrétienne signifie. Pour mieux comprendre ce concept crucial, nous pencherons sur une autre rencontre de Jésus avec un individu dans l'évangile de Saint Jean. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit donc au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle a vu que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut pour trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit: voyez-vous, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes qui étaient posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Et là, il vit les bandelettes posées par terre, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Et tout ça n'était pas... Ce linge n'était pas avec les bandelettes, mais était enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi et il vit, et là, il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture sainte, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle a vu là deux anges habillés de blanc qui étaient assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un se trouvait à la tête et l'autre aux pieds. Et ils lui dirent: « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit: « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais au fond, elle ne savait pas encore que c'était lui. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu ? » qui cherches-tu ? Pensant que c'était le jardinier, il lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, alors dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me tiens pas, ne me retiens surtout pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit tout cela. Saint Jean, chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 18. La première partie de ce passage nous apprend que la foi chrétienne est en même temps impossible et rationnelle. Qu'est-ce que je veux dire exactement par là? Je n'affirme pas qu'il serait impossible pour qui que ce soit d'avoir la foi chrétienne. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans notre état actuel de sensibilité morale et spirituelle imparfaite, il faut bien le dire, personne n'a en soi la capacité de produire une foi inébranlable en Christ. La foi est donc impossible pour qui que ce soit sans une intervention ou sans une aide extérieure. Donc, je répète, la foi chrétienne est en même temps impossible et rationnelle. Comment le ou ce passage transmet-il cette vérité? Nous devons garder à l'esprit que Jésus a répété à ses disciples qu'il mourrait, puis qu'il ressusciterait le troisième jour. C'est particulièrement frappant dans l'évangile de saint Marc. En Marc, chapitre 8, verset 31, son enseignement est résumé ainsi. Il est dit qu'il fallait que le Fils de l'homme, Jésus, soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. En saint Marc, chapitre 9, verset 31, il déclare « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et trois jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » De même, en saint Marc chapitre 10, versets 33 et 34, il annonce « Le Fils de l'homme, Jésus, ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. » Cette affirmation de Jésus à son propre sujet est assez largement connue, puisque ses ennemis même s'appuieront sur elle pour faire poster des gardes devant son tombeau. C'est confirmé par Saint Matthieu, chapitre 27, versets 62 à 66. Je répète, Saint Matthieu, chapitre 27, versets 62 et 66. En dépit de ces avertissements, lorsqu'elle va au tombeau et qu'elle constate que la pierre a été roulée, Marie de Magdala court. Elle court pour annoncer que le corps a été enlevé. Pourtant, elle a dû entendre la prédiction de Jésus concernant sa résurrection aussi souvent que les autres. Pourquoi, lorsqu'elle voit le tombeau vide, ne se dit-elle pas « Oh, il a dit qu'il ressusciterait. Se pourrait-il que… » Va savoir. Apparemment, cela ne lui traverse même pas l'esprit. Je reviendrai plus tard sur la raison pour laquelle les Juifs du 1er siècle étaient probablement persuadés qu'une résurrection était impossible et que Jésus ne pouvait pas revenir de la mort. Pour l'instant, j'aimerais prendre un peu de recul et relever la vérité générale que ce récit souligne. Croire en la personne et en l'œuvre de Christ, cela n'est pas chose absolument naturelle pour qui que l'on soit. Voyez-vous, certains théologiens parlent à ce sujet d'une incapacité. Vous savez peut-être qu'il existe, au sein des différentes traditions théologiques du christianisme, qu'il existe des points de vue divergents sur le degré de capacité des êtres humains à répondre positivement à Dieu. Cependant, toutes s'entendent absolument sur le fait que nous ne pouvons pas accéder à la foi salvatrice en Jésus-Christ par nous-mêmes seulement. Des preuves irréfutables ont beau être placées sous nos yeux, le message a beau être extrêmement clair, il y a donc un aveuglement spirituel inhérent à chaque être humain. Nous ne parvenons pas à voir la vérité. Nous sommes absolument incapables de la relier à nous-mêmes. Voyez-vous, chers amis, la pièce à conviction numéro 1 consiste dans le passage étudié ici. Nous y assistons aux suites immédiates du plus grand acte rédempteur de l'histoire. Oui, l'anéantissement par Dieu du pouvoir du péché, ainsi que la mort grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Tout cela s'est accompagné de mois et d'années d'enseignement à propos de cet événement, de tout ce que cela signifie. Voyez-vous, Marie, elle y est directement confrontée. Oui, elle fixe donc le tombeau qui est vide. Pourtant, elle n'arrive pas à le voir. Elle est incapable de traiter correctement l'information. La foi est absolument impossible sans une intervention surnaturelle de Dieu lui-même. Donc, au fait, nous ne parvenons pas à voir la vérité par nous-mêmes, nous sommes donc incapables de la relier à nous-mêmes. Donc, imaginons un peu que vous exerciez le métier de juge et qu'un cas impliquant une entreprise dans laquelle vous possédez des actions vous soit présenté. Le verdict, bien entendu, aura des conséquences énormes sur la valeur de l'action. Avez-vous le droit, ou vous l'accordez-vous, de rester juge de cette affaire-là? Non, non, non. Parce que vous ne pouvez pas du tout être objectif, sachant qu'en fonction de la décision, vous risquez de perdre tout votre argent. Donc, la loi elle-même vous demande de vous récuser. Voici donc le problème. Nous sommes tous dans une position similaire face au christianisme. Quand vient le moment de décider si ces affirmations sont vraies ou fausses, eh bien, nous avons un certain intérêt à ce qu'elles soient fausses. C'est curieux, mais c'est vrai. La différence, c'est que nous ne pouvons pas nous récuser, nous ne pouvons que examiner les indices. Par conséquent, j'aimerais suggérer quelques façons de traiter ce fameux dilemme. Tout d'abord, chers amis, ayez des doutes par rapport à vos propres doutes. Faites donc preuve de scepticisme face à votre propre scepticisme. Pourquoi cela? Eh bien, parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas prétendre à une objectivité totale. Peut-être un membre de votre famille affiche-t-il une bigoterie que vous ne supportez tout simplement pas. Ou peut-être encore, avez-vous eu une mauvaise expérience avec un groupe de chrétiens qui est plutôt incohérent et même insensible. De plus, comme nous l'avons déjà noté, il est difficile de recevoir une invitation à renoncer à notre liberté. Vous avez peur que les affirmations du christianisme soient vraies. C'est ça. Vous avez peur que ça pourrait être vrai. Mais il n'y a là pas de problème. Si nous sommes vraiment honnêtes, nous devons tous reconnaître que nous en avons peur. C'est comme ça. Nous en avons peur. Vous ne ferez donc jamais preuve d'impartialité face aux indices si vous ne reconnaissez pas que vous êtes incapable d'une impartialité parfaite. Maintenant, que devons-nous faire? Pour commencer, vous pouvez prendre le temps de bien réfléchir. Pourquoi? Cela afin de ne pas parvenir trop rapidement à des conclusions qui seraient teintées de scepticisme. Ensuite, vous devez prendre conscience que le christianisme n'est pas un simple ensemble de principes rationnels et philosophiques à adopter. Il s'agit d'une relation personnelle à vivre, surtout si ces affirmations sont vraies. Ainsi, pour prendre vraiment au sérieux la possibilité que cela soit vrai, pourquoi ne pas envisager de prier? Oui, ce n'est pas défendu de prier, bien au contraire. Du reste, de prier, cela peut être quelque chose du genre « Oh Dieu, je ne sais pas si tu existes, mais je sais ce que est un préjugé et je suis absolument disposé à m'en méfier. » Donc, si vraiment tu existes, et si j'ai des préjugés, aide-moi à m'en défaire. Oui, chers amis, rompez donc la glace avec Jésus et parlez-lui. Personne n'a besoin de savoir que vous le faites. Vous pouvez le faire dans votre cuisine ou à votre bureau silencieusement, car Dieu, il peut lire vos pensées. Mais si vous ne voulez pas entrer dans une telle démarche, je crois que vous n'êtes pas encore prêt, pas encore pour l'instant, à reconnaître le biais que nous caractérise tous. Donc, chers amis, vous ne ferez jamais preuve d'impartialité face aux indices si vous ne reconnaissez pas que vous êtes incapable d'une impartialité parfaite. Un certain nombre de gens rencontrent le problème inverse. Ils sont bien trop inquiets par rapport au caractère suffisant ou non de leur foi. Ils sont trop préoccupés par tous leurs doutes. Et souvent, on m'a dit, vous savez, j'ai le désir et j'ai même la motivation pour être chrétien. Mais j'ai peur que mes motivations ne soient pas bonnes ou pas tout à fait honnêtes. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de foi pour être chrétien. Ils croient que la foi, que c'est quelque chose qui dépend de leur capacité de placer leur esprit et leur cœur dans l'état approprié. En fin de compte, à l'instar du président du précédent groupe, je m'excuse, je répète donc, en fin de compte, à l'instar du précédent groupe, eh bien, tous ces gens-là commettent l'erreur de trop, de beaucoup trop se fier en qui ? En eux-mêmes. Donc, ils commettent l'erreur de trop se fier à eux-mêmes. C'est ça le problème. Ils ne voient pas ce que ce passage enseigne vraiment. Il est donc impossible de croire sans une aide extérieure, je le répète, sans l'intervention de Dieu. Oui, il est important que nous ayons l'intervention de Dieu, sans que Jésus ne vienne à vous et vous parle tout comme il a parlé à Marie dans son trouble. Elle ne croyait pas non plus. Non, elle ne croyait pas avant que Jésus ne s'approche d'elle et ne l'aide. Elle était agitée, elle était paniquée, elle était même en pleurs, donc incapable de le voir, alors qu'il se tenait juste sous ses yeux. Que fait dans ce cas Jésus ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il libère son esprit et réconforte son cœur. Nous avons nous aussi tous besoin de son aide. Il suffit de le lui demander. De fait, si la question de la foi en lui vous préoccupe tellement, cela pourrait être le signe qu'il vous aide déjà. Nous ne sommes même pas capables de vouloir vraiment Jésus sans son aide. Le sentiment de son absence pourrait être un signe de sa présence. Oui, un signe qu'il agit déjà dans votre existence. Comme dans le cas de notre chère Marie, Il est peut-être à vos côtés en ce moment même, sans que vous le voyez. Ainsi donc, par nous-mêmes, je le dis bien, nous ne pouvons accéder à la foi uniquement par nous-mêmes. Pourtant, Jésus dit, aux hommes, cela est impossible, mais par contre, à Dieu, tout est possible. Saint Matthieu, chapitre 19, verset 26. L'autre élément que fait ressortir ce passage, c'est l'aspect rationnel de la foi. Il est essentiel de le reconnaître, puisque nous venons de souligner que la foi ne correspond pas purement et simplement à, on peut dire, un processus rationnel, que la foi consiste en une rencontre surnaturelle, absolument personnelle, vous l'avez bien compris, avec Jésus lui-même. La foi vient donc, cette foi chrétienne, elle vient d'abord par la foi, elle n'a beau ne pas se réduire, et de loin, et la rationalité, elle n'en est pas besoin. Ce que je veux dire, chers amis, c'est que la foi s'appuie sur des éléments concrets, sur des éléments justes sous nos yeux. Nous avons donc certaines des preuves les plus importantes que notre Sainte Bible nous offre. Donc, encore une fois, la foi chrétienne a beau ne pas se réduire et de loin à la rationalité, elle n'en est pas moins rationnelle. Chers amis, pourquoi Marie, Jean et Pierre n'ont-ils pas campé au tombeau nuit et jour? Pourquoi? Quand on ne connaît pas bien la culture et l'histoire du premier siècle, il y a de quoi d'être étonné que Jésus ait dit et qu'il a répété « Je vais ressusciter le troisième jour » et que néanmoins, ce troisième jour, les disciples n'aient pas impatiemment attendu, ils n'ont pas attendu à proximité des lieux, pas du tout. Même Marie de Magdala, en dépit de son grand attachement passionné à son maître, voilà qu'elle s'enfuit lorsqu'elle voit le tombeau vide. Elle ne songe pas un instant à la possibilité qu'il soit son Seigneur et Sauveur ressuscité. Pourquoi, oui, pourquoi ne s'attendait-il pas? Pourquoi avoir un miracle? N'en ont-ils pas vu assez, me semble-t-il, pour pouvoir s'attendre à ce qu'ils en accomplissent encore un plus grand? Pourquoi pas? Ni les Juifs, ni les Grecs, ni les Romains ne croyaient que la résurrection physique d'une personne était vraiment une chose possible. Donc, les Grecs, et plus tard du reste les Romains, ils voyaient dans les éléments physiques dont le corps est la source de la faiblesse, c'est la source du mal, qu'on le veuille ou pas. Et dans l'esprit se trouve vraiment la source de la force et de la bonté. Le salut consistait, par conséquent, à libérer l'âme du corps et la résurrection physique n'était absolument pas désirable en ce temps-là. Quel Dieu voudrait accomplir un tel acte? Donc, les Juifs n'avaient pas la même conception du corps. Ils considéraient le monde matériel comme faisant partie de la bonne création de Dieu. Certains d'entre eux, pas tous, croyaient à une résurrection générale des justes à la fin des temps. Cependant, personne, que ce soit parmi les Juifs, les Grecs ou les Romains, ne s'attendait à ce que Dieu ressuscite quelqu'un au beau milieu de l'histoire. Par ailleurs, les Juifs étaient les moins disposés de tous à croire qu'un être humain puisse être le Fils de Dieu et doivent donc être adorés, car toute leur vie, on leur avait enseigné qu'un être humain ne pouvait pas être divin, et leur perception de Dieu, elle était caractérisée par la notion d'absolue transcendance. Donc, l'accumulation de tous ces facteurs empêchait les Juifs du premier siècle d'envisager une résurrection de Jésus en dépit de ses prédictions. C'était bien trop incroyable pour tous. Ils étaient incapables de croire tout simplement à un tel événement ou même de le désirer. Nous avons, voyez-vous, tendance aujourd'hui à voir les peuples anciens comme très superstitieux, ce qui est vrai. Et c'est vrai dans une large mesure. Ils prêtaient foi à toutes sortes d'affirmations sous des incantations parfois, sur la magie, sur les miracles, sur les êtres, voire même surnaturels, sur les puissances auxquelles nous ne croyons pas aujourd'hui. Par conséquent, nous nous disons ou nous croyons que les disciples de Jésus étaient très crédules, si bien qu'ils l'ont peut-être cru quand il a déclaré qu'il ressusciterait. Ils l'ont peut-être cru à un moment donné. Ils ont attendu ce moment avec impatience. Et bien entendu, le moindre témoignage, même fragmentaire, d'une personne, par exemple, déclarant l'avoir vu, eh bien cela a suffi pour amener des milliers de personnes tout aussi crédules à transformer enfin cela en vérité, à proclamer. Donc, le problème avec cette théorie-là, c'est qu'elle a tout faux. Oui, c'est curieux, mais c'est vrai. Car en réalité, d'après les récits des évangiles, les disciples ne s'attendaient absolument pas à une résurrection, voyez-vous. C'est ça la vérité. C'est plutôt ironique. Ils étaient tout aussi incrédules que les hommes d'aujourd'hui. Curieux mais vrai. Ils ont eu besoin de multiples apparitions et témoignages oculaires pour enfin être convaincus que Jésus était vraiment, vraiment vivant. Cela concorde parfaitement avec ce que nous savons de leur culture du point de vue historique. La question que je vous pose elle est la suivante. Si en tant que moderne ordinaire, vous avez une vision du monde qui exclut, par exemple, la résurrection corporelle, d'un homme réellement mort, aux blessures fatales qui sont pourtant encore visibles, eh bien, de quel genre de preuves auriez-vous besoin pour pallier tous vos doutes et ainsi faire disparaître vos présupposés, concernant cet événement-là? Oui, de quel genre de preuves auriez-vous besoin, chers amis, pour croire enfin que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et qu'il est vraiment ressuscité? Vous pouvez raisonnablement conclure que les gens de l'époque ont eu droit à quelque chose de similaire. Et si c'est le cas, les preuves qui les ont convaincus et les ont amenés à croire pourraient donc suffire à vous convaincre vous aussi maintenant. Oui, aujourd'hui même. Elles pourraient aussi suffire à fortifier votre foi si vous êtes déjà chrétien. De nos jours, on nous incite à voir la foi comme inversement proportionnelle à la logique et aux preuves. Plus vous recueillez de faits et de certitudes, eh bien moins vous avez donc besoin de foi. Or, voyez-vous, ce n'est pas ce que les chrétiens entendent par là. La foi, elle ne consiste pas à espérer ce qui n'est pas vrai, mais à avoir des certitudes à propos de ce qu'on ne peut pas toujours voir, mais qui est quand même vrai. Ainsi donc, une preuve irréfutable qui mobiliserait la raison est donc un des plus grands stimulants de la foi chrétienne. Et je répète, la foi ne consiste pas à espérer ce qui n'est pas vrai, mais à avoir des certitudes, surtout à propos de ce qu'on ne peut pas toujours voir et toucher. Il y a dans ce passage un autre élément important qui prouve que ces récits de la résurrection de Jésus n'ont pas été inventés de toutes pièces. Qui en est le premier témoin oculaire, je vous le demande? D'après l'auteur de l'évangile de Saint Jean, eh bien, il s'agit de Marie de Magdala. Oui, une femme. Tous les spécialistes de la Sainte Bible et les historiens vous diront qu'en ce temps-là, dans ces sociétés patriarcales, les femmes ne pouvaient pas témoigner devant les tribunaux juifs ou romains, car leur témoignage était considéré comme peu fiable, et de ce fait même inadmissible en tant que preuve. Si quelqu'un avait voulu forger de toutes pièces un récit de résurrection afin de promouvoir son mouvement, il n'aurait jamais, au grand jamais, choisi de faire d'une femme son premier témoin oculaire. Or, dans les évangiles de Saint Matthieu, Marc, Luc et Jean, les premiers témoins oculaires, ces premiers témoins de la résurrection, sont bel et bien des femmes. La seule réponse plausible à tout cela du point de vue historique, à la question de savoir pourquoi elles apparaissent dans ces récits et pourquoi les hommes qui les ont composés les y ont intégrés, sachant le peu de crédit prêté à leur témoignage, c'est tout simplement que cela doit s'être passé exactement ainsi. Marie doit donc avoir été là. Elle doit être la première à avoir vu Jésus-Christ ressuscité. Il n'y a donc pas d'autres motifs ou raisons pour l'auteur de dire que tel était le cas. Voyez-vous, l'élément rationnel de la foi est important. Le texte dit bel et bien que Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Là, il vit les bandelettes posées par terre, le linge qu'on avait donc mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandelettes, mais était enroulé dans un endroit à part. Le mot grec implique non seulement la vue, mais aussi la réflexion, la méditation et le traitement de l'information. Pierre, il entre et il se dit probablement quelque chose comme « Voyons, voyons, si Jésus était ressuscité et s'était levé, eh bien le linceul serait complètement déchiré ou en pagaille, ce qui est vrai. Mais si des amis avaient pris le corps, pourquoi l'aurait-il déshonoré en l'emportant tout nu? Parce que c'était impensable, une chose pareille. Il l'aurait conservé dans son linceul. Et si c'était des ennemis qui l'auraient pris, pourquoi donc aurait-il enlevé le linceul et l'aurait-il plié avec autant de soin? Alors il réfléchit intensément, cherchant des indices et vérifiant toutes les hypothèses. Ainsi, voyez-vous, la vraie foi n'est pas seulement rationnelle. On ne peut pas y accéder par le seul raisonnement. Cependant, elle ne se situe pas en dessous du rationnel non plus, pas du tout. On ne peut pas y accéder en se passant tout simplement de la raison. Pourquoi? Mais parce que une foi qui est mature, je dis bien une foi qui est devenue mature, elle implique toute la personne entière, telle que l'intellect, qui doit être mis à contribution autant que la volonté et les émotions. Nous vivons à une époque où l'on aime dire il n'y a pas vraiment de vérité objective. Si vous voulez croire au christianisme ou à n'importe quelle religion, dans la mesure où c'est pertinent pour vous, ou cela vous satisfait, ne vous préoccupez pas de savoir si c'est vraiment arrivé. Si c'est pertinent pour vous, eh bien, vous pouvez, bien entendu, y croire. Or, les convictions les plus profondes, elles peuvent être erronées. Il y a des gens qui ont cru profondément et sincèrement que leur race était supérieure à toutes les autres. Je parle des nazis et compagnie. Et que la meilleure chose qu'ils pouvaient donc faire était de diriger le monde. Mais cela ne signifiait pas pour autant qu'ils avaient raison à nos yeux. Pourquoi ? Parce que au plus profond de nous-mêmes, nous savons très bien qu'il existe une chose qui est appelée la vérité. Nous savons qu'il y a des manières d'agir qui sont mauvaises, même si des hommes croient qu'elles sont bonnes, et d'autres qui sont bonnes, même si des hommes croient qu'elles sont mauvaises. Donc, les convictions les plus profondes peuvent, en certains cas, être erronées. Donc, le véritable christianisme ne dira jamais « croyez tout simplement parce que c'est pertinent pour vous » ou « croyez parce que cela vous séduit ». Non, il ne vous laissera pas vous en tirer de cette façon-là. Il dit « n'adhérez pas à la foi chrétienne parce que c'est stimulant ». Parce que c'est pratique et pertinent, mais croyez-y, parce que c'est vrai. Parce que si ce n'est pas vrai, en fin de compte, cela ne sera ni pratique, ni pertinent. Vous ne serez donc jamais capable d'affronter les souffrances et les questions qui vous attendent si vous croyez que le christianisme est seulement pertinent et stimulant, ce qu'il est bien entendu, mais sans être vrai. Il faut que cela soit donc vrai. Et voilà pourquoi la foi en Christ est impossible et tout de même rationnelle. Elle est impossible et rationnelle. Il y a du reste une autre leçon à tirer ici. La foi vient uniquement par la grâce et dans la grâce. Je répète, la foi, elle vient uniquement par la grâce et dans la grâce. À tout point de vue, elle est donc remplie de grâce. Laissez-moi expliquer tranquillement cela. Rappelez-vous, Marie se tenait donc dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit, et là, elle a vu deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus debout, mais voilà, elle ne savait pas que c'était vraiment lui. Là, à ce moment-là, Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était peut-être le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, alors dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Surtout, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit tout cela. Vérifiez bien dans Saint Jean, chapitre 20, je répète, Saint Jean, chapitre 20, verset 11 jusqu'au verset 18. Chers amis, ce passage contient peut-être l'enseignement principal du Nouveau Testament présenté sous forme narrative. La tendresse, quelle tendresse remarquable de l'échange est manifeste dès le début. Car à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, Dieu s'oppose à des hommes qui se sont souvent complètement fourvoyés ou qui lui résistent. Et il le fait non à l'aide de semences violentes, intimidantes, mais de questions affectueuses et perspicaces. Excusez-moi. Donc, dans le jardin d'Éden, Dieu demande à Adam et Ève, qui viennent du reste de lui désobéir, « Où êtes-vous ? Et comment en êtes-vous venus à ressentir de la honte ?» Au prophète rebelle, quelle belle histoire, ce prophète Jonas, veuillez lire vraiment toute l'histoire de Jonas. Quand je l'ai lu, j'ai même pleuré. Dieu Adonai El Shaddai, Yahvé l'Éternel, lance et dit, « Jonas, as-tu raison d'être en colère ?» Les thérapeutes savent qu'il ne suffit pas d'indiquer à un patient comment vivre, poser des questions l'aide par contre à reconnaître ses erreurs, à découvrir la vérité et à s'y rallier pleinement. La question de Jésus, ces questions sont du même genre. Oui, pourquoi pleures-tu ? Ceci est un affectueux reproche, c'est un appel à se réveiller. Qui cherches-tu ? Oui, qui ? Ceci est une invitation encore plus pénétrante à s'élargir, à élargir son horizon et à reconnaître que sa conception de Jésus, malgré son attachement à lui, était encore bien trop étriqué. Remarquons quand même que Marie interprète mal les questions de Jésus. Elle pense tout d'abord qu'il est peut-être le gardien de l'endroit et est donc susceptible de savoir ce gardien-là où se trouve le corps de son maître, s'il a été emporté ou non. Et Jésus cherche alors à toucher son cœur en prononçant un tout simple mot. Plus tôt dans l'Évangile, il s'est présenté comme le bon berger qui appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et dont les brebis écoutent la voix. Notez Saint Jean, chapitre 10, versets 3 et 4. C'est ce qu'il fait ici en disant tout simplement « Marie ». la foi authentique est toujours personnelle. Si vous croyez seulement que Jésus est mort pour pardonner les péchés de façon générale, sans croire que Jésus est mort pour vous personnellement, vous ne vous accrochez pas à lui vraiment par la foi. Non, non. Vous ne l'avez pas encore entendu vous appeler par votre nom. Voyez-vous ? Oui, je répète, la foi authentique, elle est toujours personnelle. La bienveillance de Jésus, elle est palpable. Marie court donc dans tous les sens frénétiquement. Mais comme il le laisse entendre, elle ne cherche pas le bon Jésus tout d'abord. Elle cherche au fond un Jésus mort. Et oui, c'est vrai, un Jésus infiniment moins grand qu'il ne l'est en réalité. Elle ne l'aurait donc jamais trouvé si lui, Jésus, ne l'avait pas cherché. Comprenez-vous quelque chose? Il est en train de vous chercher, vous qui écoutez maintenant. Il vient vers elle, il se fraye avec douceur un chemin vers son cœur, et il le trouve en s'adressant personnellement à elle. La foi de Marie, c'est le fruit de la grâce. Elle ne la gagne pas par elle-même. Non, non, non. Nous en apprenons un peu plus encore ici au sujet de la relation entre la grâce et la foi. Au moment où elle prend conscience qu'il est vraiment vivant, il l'envoie pour porter un message. Il lui dit, va trouver mes frères et dis-leur. Et elle devient, d'une certaine manière, elle devient la toute première chrétienne. Comment cela? Qu'est-ce que un chrétien? Eh bien, un chrétien croit que Jésus est mort et ressuscité. Un chrétien a donc rencontré le Christ ressuscité. Et à ce moment-là, Marie, vous l'avez donc compris maintenant, elle est la seule personne au monde pour qui ces deux éléments soient vraiment vrais. S'agit-il d'un simple hasard? Non, non, non. Jésus aurait facilement pu s'arranger pour que quelqu'un d'autre soit son premier messager. Il a choisi Marie. Cela signifie que, comme premier chrétien, il a choisi délibérément une femme au lieu d'un homme, une ancienne malade même mentale, rappelez-vous, relisez toute l'histoire, au lieu d'un pilier de la société, au lieu d'un membre élevé, il a choisi un membre de la basse. Oui. Le message, donc, pourrait être pas plus clair. Ça ne pourrait pas être plus clair. Écoutez bien, Jésus a dit, peu importe qui tu es ou ce que tu as fait, peut-être toi qui écoutes maintenant, tu as fait quelques jours de prison parce que tu as tout simplement pas pu payer ton loyer ou des multiples amendes que tu as reçues. Non, peu importe donc qui tu es ou ce que tu as fait. Mon salut, dit Jésus, ne repose pas sur la généalogie, sur la qualité morale, sur le talent brut ou sur le degré d'effort ou les antécédents fabuleux avec tous les bacs plus 5. Non, non, non. Il dit, je ne suis pas venu pour appeler ceux qui sont forts, mais je suis venu pour appeler ceux qui sont faibles. Même si je suis votre maître, je suis aussi et surtout votre sauveur. Je vous sauve, non grâce à votre œuvre, mais grâce à la mienne, grâce à tout ce que j'ai fait pour vous. Dès lors que vous comprendrez cela, dès lors que vous verrez à la place de Marie de Magdala, eh bien quelque chose changera à jamais en vous, et vous suivrez la première chrétienne. Le texte ne montre pas seulement que la grâce est la cause de la foi. Il dit quel en est le contenu également. Si vous croyez que Jésus était un bon enseignant et qu'il peut vous aider et répondre à vos prières dans la mesure où vous vivez en accord avec ses règles éthiques, vous n'êtes pas encore un ou une chrétienne. Vous avez une croyance d'ordre général, mais vous n'avez pas encore une foi qui sauve, pas encore. Or, la véritable foi chrétienne, elle nous amène à croire, tout simplement. Pourquoi compliquer les choses? Que Jésus nous a sauvés par sa mort et par sa résurrection, afin que nous puissions être acceptés par pure grâce, uniquement par grâce. Ça, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut par l'œuvre de Christ et uniquement par grâce. Alors qu'il était moine et qu'il étudiait et qu'il enseignait les Saintes Écritures, le fameux moine Martin Luther en français, évoque ainsi son expérience de conversion personnelle. Il dit « C'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu. » Romains 1, verset 17. « Je détestais, dit-il, ces mots « justice de Dieu ». Même si je menais une vie de moine irréprochable, j'avais tout de même l'impression que j'étais un pécheur devant Dieu, et cela me perturbait énormément. Je ne pouvais pas croire qu'il soit apaisé par ma pénitence. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que la justice de Dieu est ce qui permet aux justes de vivre grâce à un don de Dieu, c'est-à-dire par la foi. Et là, j'ai eu l'impression de renaître et d'entrer au paradis lui-même par des portes qui se sont trouvées grandes ouvertes. Oui, voilà, chers amis, comment Luther a compris que le salut n'est pas un casier que je fournis à Dieu et par lequel il me sauve, mais plutôt un casier que Dieu, lui, me fournit et grâce auquel je suis accepté et sauvé. Il dit, dès que j'ai compris cela, a dit Luther, j'ai eu l'impression de renaître et d'entrer au paradis par des portes grandes ouvertes. Ainsi, la foi est un cadeau de Dieu. Elle est construite sur la réflexion et sur les indices activés par l'intervention miraculeuse de Dieu. Elle est fondée sur une découverte fondamentale. Jésus, c'est lui qui a accompli tout ce dont nous avons besoin et nous pouvons donc être adoptés et acceptés dans la famille de Dieu. Et tout cela uniquement par pure grâce. Ce n'est pas par quelque mérite de nous-mêmes. Surtout pas. Pouvons-nous, chers amis, nous contenter de nous asseoir satisfaits et transformés en ayant conscience d'un tel amour? Non, non, non. Nous devons passer le reste de notre existence à goûter, je dis bien goûter, cet amour qui est rempli de grâce, à en faire l'expérience et à nous laisser ainsi façonner par Dieu. La fin du texte nous donne du reste un aperçu et une image séduisante de cette merveilleuse expérience. Rappelez-vous, Jésus dit à Marie, ne me retiens ou ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ce qui est un peu curieux tout de même, et bien entendu, c'est que lorsqu'il rencontre le disciple Thomas plus tard, il l'invite à le toucher. De plus, lorsqu'il rencontre des femmes à la fin de l'évangile de Matthieu, il les laisse même s'agripper à lui et à se prosterner à ses pieds. Évidemment, pourquoi ? Pourquoi une telle interdiction à Marie ? Eh bien, il est facile de l'imaginer dans son exubérance. Il faut bien comprendre partout ce que Marie de Magdala avait vécu. C'est pas n'importe quoi. S'il vous plaît. Eh bien, voyez-vous, elle ne se serait pas seulement un tout petit peu cramponnée à lui, mais plus que cela, comme si sa vie en dépendait, comme un peu pour dire, mon cher sauveur, je t'ai perdu une fois, d'accord, mais sache que je ne te laisserai jamais repartir maintenant. Si c'est ainsi que nous interprétons les propos de Jésus, il lui dit en fait, tu n'as pas à t'accrocher à moi aussi fermement. Je monte au ciel. Qu'est-ce que cela signifie ? Marie, je suis ici. L'avis de nombreux commentateurs. Jésus veut lui dire, Marie, lorsque je monterai à la droite du Père, crois-moi, je ne t'abandonnerai jamais plus. Jamais plus. Je vais envoyer mon esprit, et par l'Esprit Saint, tu pourras sentir ma présence tous les jours. Ma paix et mon amour, tu le sentiras jour et nuit. Quelle merveilleuse promesse! La véritable foi, elle nous unit ainsi au Christ, non seulement pour nous sauver de la peine que méritent nos péchés, mais pour nous permettre d'entretenir une relation d'amour, une relation d'un véritable amour qui est durable pour l'éternité avec Jésus. Pour terminer cette étude, disons que ce passage nous livre une dernière indication utile à propos de la foi. La foi ne surgit jamais exactement de la même façon chez deux personnes. Ce n'est pas identique à copier. Si vous lisez le chapitre entier, vous constaterez que Jean, que Pierre, que Marie, que Thomas, qui rencontrent Jésus plus tard, sont tous approchés totalement différemment par Jésus. Ils n'ont pas tous besoin d'autant de temps l'un que l'autre. Ils n'ont pas tous besoin de la même quantité de preuves et d'expériences. Ils ont tous des trajectoires donc différentes. Ils ont tous des parcours différents. Et voilà pourquoi nous ne devons jamais nous dire « Mon ami a rencontré Christ comme cela. Donc je dois faire une expérience aussi forte que la sienne. » De même, si nous avons déjà rencontré Christ, nous ne devons pas nous attendre à ce que les autres viennent à la foi exactement de la même façon que nous. Certes, nous avons à admettre que nous sommes des pécheurs. Nous avons à croire qu'il est mort à notre place. Nous avons à nous appuyer sur son œuvre plutôt que sur nos bonnes actions, sur notre pédigré. Non, non, non. Nous avons à lui consacrer toute notre existence pour le remercier de ce qu'il a accompli pour nous, pour moi. Mais il y a tant de manières d'accéder à cette foi-là. Amen. Chers amis, nous n'avons plus le temps de beaucoup de choses, mais j'ai reçu dans le cœur, par l'Esprit Saint, quelque chose que je devrais vous transmettre pour votre encouragement et votre enseignement personnel. Écoutez cela. Le Seigneur est avec vous. Sa présence ne vous est-elle donc pas sensible? Certes, les sens ne sauraient l'apercevoir. Il faut pour cela que vous soyez en état de le percevoir spirituellement. Quand bien même un homme le verrait de ses yeux, il n'en résulterait pas nécessairement pour lui une plus grande perception spirituelle. Il faudrait plutôt qu'il puisse alors conjoindre en lui le physique et le spirituel pour lui donner de toutes choses une vision spirituelle aussi bien que physique. Souvenez-vous de cela, afin de pouvoir rassurer tous ceux qui ne l'ont jamais vu et qui pourtant ont nettement perçu sa présence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est vraiment le plus profond de mon désir. Au revoir, mes très chers amis. Excusez-moi que ma voix était si enrouée, mais le Seigneur a permis que je puisse quand même vous donner cette étude. Et j'espère qu'elle était malgré tout suffisamment compréhensible. Que le Seigneur vous bénisse. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, mes très très chers amis.